D'astronomie amateur sur RDOA 107.5. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 21 de l'étoile polaire. Après l'émission spéciale de la dernière fois avec les enfants qu'on espère vous avez apprécié, on va continuer notre petit chemin sur l'astronomie ensemble. Alors aujourd'hui, dans le studio, il y a Axel et Pierrick.
Salut.
Et on va faire le sommaire de l'émission. Alors, on va commencer comme d'habitude par le ciel ce soir, un petit tour de ce que vous pouvez observer à l'œil nu ou au télescope en ce début de printemps. Ensuite, je ferai un petit point d'astronomie. Là, cette semaine, on va parler de la relation de Planck-Einstein et donc continuer un peu notre périple intellectuel vers la mécanique quantique. Et puis ensuite, ce sera la musique. Et après la musique, Pierrick, tu nous présenteras la chronique spatiale et tu vas nous parler de Werner von Braun, personnage ambigu de l'histoire des techniques.
Ouais.
Alors Axel, je te laisse la parole pour le ciel ce soir.
Ah oui, pour mon petit horoscope. Alors, le ciel du soir, en ce moment, on a certaines grandes constellations de l'hiver qui commencent à disparaître tôt dans la nuit. Je pense à Orion, par exemple, qui à la tombée de la nuit a déjà passé le méridien et se déplace de plus en plus bas. On a la grande ours qui est toujours levée, comme posée sur le bout de son manche droite.
Comme un point d'interrogation.
Ouais, exactement. Voilà, et on peut toujours apprécier les constellations comme le Lion, comme la Vierge.
La Vierge, pas évidente à localiser,
oui,
à part l'Épi.
Voilà, à part son étoile la plus brillante.
Ouais. Qui est très brillante. Le reste de la constellation, je trouve assez diffus.
Oui, c'est vrai. Voilà, en termes d'objets à observer. Tu avais déjà parlé du triplet du Lion.
Non.
Non ? Il me semblait. Bon, alors
tu peux y aller.
Alors, il y a un objet dans la constellation du Lion, vous l'aurez compris, qu'on appelle le triplet du Lion, qui est en fait, qui sont trois galaxies qui sont très proches. Avec, selon le grossissement qu'on utilise, on peut voir les trois dans le même champ d'oculaire. Donc c'est une image assez chouette à voir. Imaginez ces centaines de milliards d'étoiles qu'on voit d'un coup d'œil. Voilà, je connais pas le nom des trois galaxies une par une, mais
c'est celles qui sont situées sous le Lion là. C'est
Oui, c'est ça. C'est si on
peut. Il y en a un paquet en fait, par.
Oui.
Ouais, c'est ça. C'est rempli d'objets là.
Entre le Lion et la Vierge là, il y a plein de, ouais, de galaxies. Quoi.
C'est ça. En fait, si vous regardez si vous vous intéressez à l'observation des galaxies. Vous pratiquez, vous apercevrez qu'il y a des régions du ciel où il y en a beaucoup, contrairement à d'autres régions où il y en a très peu, voire pas du tout. Et on peut s'amuser à dessiner des sortes de, comme les dessins à points, à relier des points comme ça, et ça fait vraiment des chaînes de galaxies à certains endroits.
Des filaments.
Des filaments, voilà. C'est des mégastructures qu'ont été déjà observées comme ça avec des instruments modestes. Et puis révélé par des instruments plus conséquents de la NASA et autres, où on a remarqué que le ciel à très grande échelle, les galaxies, les groupes de galaxies sont répartis de façon organisée, on peut dire. Et pas, c'est pas homogène dans toutes les directions.
Comme dans une galaxie, il y a les étoiles qui gravitent autour d'un centre. Les galaxies elles-mêmes, elles ont un système d'organisation.
Ça fait une sorte de quadrillage, un peu. De quadrillage où, le long des filaments, tu as des galaxies, puis au centre, tu en as moins. Au centre des carrés. Ah je sais pas si je suis clair.
Pas trop, mais...
Il y a vraiment les structures à grande échelle de l'univers, et ça, c'est... comme tu dis, on observe ces filaments. Il y a vraiment des endroits où il n'y a pas de galaxies, des endroits où il y en a plus. Et elles ne sont pas du tout réparties de façon équitable, voilà, quoi, comme si vous faites un cake au raisin et vous avez des raisins partout. Ouais. Il y a vraiment des structures, et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que les astrophysiciens, voire les physiciens théoriques, en fait, ils essayent de modéliser un peu... ces structures-là, de comprendre comment on passe d'un hypothétique Big Bang, une création de l'univers, à ces structures qu'on observe. Et de toute façon, sur l'univers à grande échelle, on en sait encore très peu. Quoi. Oui. Et il y a encore beaucoup de travaux et qui sont super intéressants à suivre. On reparlera de ça dans une émission. J'avais déjà un peu mentionné dans les premières émissions les structures de l'univers à grande échelle. Mais ça mériterait qu'on en reparle, je pense. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Et aussi sur les interactions entre galaxies et les galaxies qui fusionnent. Il y a plein de choses qui se passent, y compris la nôtre.
Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez appréhender avec un télescope d'amateur en passant d'une galaxie à l'autre au fil de l'année, des saisons. Voilà.
Ben merci, Axel. On va passer au point d'astro de la semaine. Et donc, comme je vous disais, on va parler de la relation de Planck-Einstein. Alors, Einstein, on connaît son nom. Hein. Il est quand même, c'est une des personnalités les plus connues de l'histoire. Même si on n'a pas forcément une vision très claire de ce qu'il a proposé comme théorie. Et Planck, c'est un autre physicien dont je vais un petit peu parler aussi. Alors ça s'inscrit un peu dans la suite des émissions, en fait, que, disons, depuis l'épisode 15, j'avais parlé de Maxwell et donc de la théorie de l'électromagnétisme et de toute cette optique, en fait, où la lumière était vraiment visualisée comme une onde électromagnétique. Ça, c'est Maxwell qui l'a posé. Parce qu'avant ça, on avait plutôt une vision... il était évident pour les gens que la lumière, c'était plutôt des particules. On n'avait pas trop d'idées de ce que c'était que ces particules, mais ils imaginaient bien un peu plein de petites boules de feu là, que nous envoyait le soleil. Et c'était plutôt ça la vision que les gens avaient. Et avec Maxwell et aussi avec le développement de l'optique, on en est arrivé plutôt à cette conception d'onde. Et donc voilà, Maxwell, il dit la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ok, très bien. Alors, j'avais d'ailleurs ensuite, dans l'épisode 17, parlé de la spectroscopie, où j'avais expliqué comment on analysait la lumière et comment on trouvait des raies de lumière. Et ça, c'était déjà un début de la mécanique quantique, début d'idée de quantifier les choses, c'est-à-dire quand un atome émet de la lumière, eh ben, il n'émet pas n'importe quelle longueur d'onde, il n'en émet que certaines, et qui constituent une signature de cet atome. Et puis dans l'épisode 18, j'avais fait une espèce de petit rappel sur ce qu'était la physique à la fin du 19e siècle. Et donc je vais rappeler brièvement, parce que je vais repartir de là, ce qui avait été dit. On avait donc Maxwell avec son électromagnétisme, donc fin du 19e. On avait une théorie de la gravitation avec Newton, pour expliquer comment la Lune tourne autour du Soleil, le Soleil autour de la Terre, pourquoi les objets tombent de la table et comment ils tombent surtout. Voilà, on avait en gros ça. Mais il y avait des petits soucis quand même. Il y avait deux, trois choses qui gênaient vraiment les physiciens.
Un petit nuage.
Voilà, c'est ça. C'était l'expression donc de Thomson, qui est aussi connu sous le nom de Lord Kelvin, qui avait dit il y a deux petits nuages dans le ciel de la physique théorique, mais qui, selon lui, vraiment allaient être évacués assez rapidement. Et c'était l'effet photoélectrique. Donc ça, je vais en parler aujourd'hui. Alors l'effet photoélectrique, c'est quoi ? C'est un peu le principe des panneaux solaires, on va dire. C'est-à-dire le fait que la lumière, quand elle arrive sur de la matière, elle va créer un courant d'électrons. Elle va arracher des électrons, en fait, et donc créer de l'électricité. Alors évidemment, plus le matériau est conducteur, plus ça marche. C'est sûr que sur du bois, ça fait pas grand chose. Par contre, sur un métal, et à plus forte raison sur donc des panneaux photovoltaïques qui sont faits pour, là, on obtient des effets intéressants. On le voit bien puisqu'on fait de l'électricité avec ça. C'est comme ça qu'on convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc ça mérite qu'on s'y attarde et je vais y revenir. Et la deuxième petite catastrophe, c'était la catastrophe ultraviolette dans le rayonnement du corps noir. Alors je vais commencer par ça. Qu'est-ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir ? Alors en physique, un corps noir, c'est un objet théorique qui aurait la capacité d'absorber tout le rayonnement qu'on lui envoie. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit rien. Il absorbe tout. Et ensuite, il réémet tout ça sous forme de rayonnement thermique. C'est-à-dire, en gros, il absorbe toute cette lumière, ça lui donne de l'énergie. Cette énergie, elle va agiter les molécules, les atomes, les électrons. Et en étant agités, eh bien, du coup, ils vont émettre un rayonnement. Puisque ça, c'était une des bases de ce qu'on avait parlé de Maxwell, une des choses que Maxwell sort de ses équations. On ne l'explique pas, mais on l'observe. Une charge accélérée rayonne. C'est-à-dire un électron qui subit une accélération, il va rayonner, il va émettre des photons, il va émettre de la lumière. Donc le principe du corps noir, c'est ça.
On absorbe. C'est théorique du coup.
Alors ça, non. Ce qui est théorique, non, c'est un corps comme ça, c'est-à-dire qui absorbe tout, parce qu'il n'y a rien qui absorbe tout.
D'accord. À part un trou noir. L'idéal est théorique.
Quoi. Voilà. D'accord. Et qui ne va émettre qu'un rayonnement thermique. En plus, il est censé être en équilibre avec son environnement. Bon, c'est des conditions qui sont complètement théoriques, mais le modèle, il permet quand même d'expliquer des choses. Et sur un exemple très concret, c'est vous prenez du métal, vous commencez à le chauffer, et ben il devient rougeoyant. Ensuite, il va devenir bleu. Et ensuite, il devient blanc. Donc, à mesure que sa température augmente, bon, ben, ça, typiquement, c'est ça. Le rayonnement d'un corps noir, ça va être ça, okay, on va dire. D'accord. Même si le morceau de métal n'est jamais un corps noir parfait, selon la théorie, mais c'est pas très grave. Donc, le principe, c'est ça. Et le truc, c'est que les physiciens, ils essayaient de décrire ce rayonnement. Donc par exemple d'un morceau de métal ou choses comme ça, de façon théorique, et ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que ça marchait pour, on va dire, les rayons, la lumière de faible énergie, donc
dans le rouge,
de grande longueur d'onde, donc dans le rouge et tout. Mais quand vous passiez à l'ultraviolet, et ben ça, le modèle marchait pas du tout. Donc j'en avais parlé, il me semble, j'en avais mentionné tout ça dans l'émission sur la mécanique, enfin sur le début de la mécanique des quantas, la physique des quantas. Et donc en fait, ce qu'ils trouvaient dans leur théorie, c'est que ils avaient appelé ça la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire que un corps noir devait rayonner en fait une énergie de plus en plus grande à mesure que la longueur d'onde diminuait, donc on allait vers les rayonnements énergétiques. Et or, c'est pas du tout ce qu'on observe, quoi. Ils n'arrivaient pas à l'expliquer en fait. Et alors là, on arrive à Planck. Donc c'est là qu'intervient Planck, Max Planck, qui est un physicien allemand qui est né en 1858 et mort en 1947. Et Max Planck, il est considéré comme un des fondateurs de la mécanique quantique. Alors si vous regardez en fait réellement les travaux de Max Planck, à part cette relation de Planck-Einstein que je vais énoncer, il n'y a pas forcément grand chose. Mais son grand mérite, en fait, c'est vraiment d'avoir le premier posé cette idée de dire, eh ben, en fait, l'énergie de la lumière qui est transmise à la matière, elle est transmise par paquets. C'est que des petits paquets. Donc en fait, déjà là, vous avez l'intuition du photon. En fait, c'est le mot photon, il n'était pas utilisé en physique encore. Je vous dis, on avait basculé dans cette vision de la lumière est une onde électromagnétique. Et lui, en fait, il dit, ben en fait, si on considère ça, ça va pas marcher. On va considérer que je vais poser cette hypothèse, un peu mathématique au départ. Et il pose cette relation. Il dit, l'énergie est égale à un nombre qui s'appelle h fois la fréquence nu. Alors, pour ceux qui ont des souvenirs, ça fait E égale H fois nu. Nu, c'est la fréquence du rayonnement électromagnétique. E, c'est l'énergie. Et H, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, H, c'est un nombre qu'on a appelé depuis la constante de Planck. Donc, c'est pas rien quand même, parce que c'est une des grandes constantes fondamentales de la physique qu'en mécanique quantique, on retrouve de partout. Partout, partout. Dès que vous écrivez une équation de mécanique quantique, vous avez H qui apparaît. Ça, c'est clair. Donc, en fait, là, il a, voilà, donc l'air de rien, là, au début de sa carrière, hein, il pose cette hypothèse, il dit E égale H nu, voilà, et donc on a des petits paquets d'énergie qui vont être amenés sur ce corps noir par la lumière. Et de là, il déroule des calculs et tout marche, en fait. D'un coup, tout marche. Donc, c'est lui qui a résolu ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Alors, juste au passage, quand même, deux petits détails sur la vie de Max Planck, moi, qui m'ont un peu, je trouve, intéressant. Déjà, c'est quelqu'un qui, adolescent, a hésité avec la musique. Il hésitait entre les sciences et la musique. Bon, finalement, il a choisi la physique. Et ce qui est marrant aussi, c'est que jeune, alors on est à une époque où en fait les atomes n'avaient pas encore été détectés. Ouais. C'était encore une sorte d'hypothèse, les atomes. Ah ouais. Et lui, quand il était jeune, donc ça veut dire voilà, en 1880, eh ben, il rejetait l'hypothèse des atomes. Il disait, c'est pas possible, la matière doit être continue. Parce qu'atome, il y a l'idée qu'entre deux atomes, il n'y a rien. Donc on a toujours cette idée un peu troublante que la matière, c'est que du vide en fait. Et lui, il disait, c'est pas possible, la matière, elle peut pas être discontinue. Or, c'est lui le père de un des pères de la mécanique quantique. Ouais. C'est-à-dire qu'il, derrière, au contraire, va tout quantifier. La matière, le rayonnement, tout ce qui passe, en fait, est quantifié. Donc, c'est quand même des petites contradictions. Bon, avec le temps, il a rejeté hein, l'hypothèse. Enfin, il a accepté l'hypothèse ouais. atomiste.
Bien sûr,
il a bien vu que la science, elle allait vers là et que les preuves étaient irréfutables, il s'est incliné. Mais son instinct, c'était de dire, non, c'est pas possible. Quoi. Donc, voilà. Alors, on en est là, c'est en 1900 qu'il pose cette relation E égale H nu. Donc voilà, en 1900, et il résout la catastrophe ultraviolette. Cinq ans plus tard, 1905, là c'est Einstein qui s'y colle, et qui se... Donc 1905 c'est l'année où Einstein il a écrit sa théorie. Enfin, publié sa théorie de la relativité restreinte. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est-à-dire, en fait, la relativité restreinte, ça concerne tout ce qui est les vitesses qui approchent de la lumière, en fait. Et en particulier, ça, j'avais fait une émission là-dessus, l'idée que le temps dépendait, en fait, du référentiel dans lequel on se trouvait. Donc ça, je vous renvoie, il me semble que c'était l'épisode... 16.
Bravo.
Voilà.
1905, c'est ce qu'on appelle l'année d'or de Einstein.
Ouais, exactement.
Il a sorti trois papiers
qui ont marqué à jamais
les trois domaines de la physique.
Ouais. Donc il y a donc cette relativité restreinte, et il y a aussi donc son travail sur l'effet photoélectrique, qui était le deuxième petit nuage à l'horizon de Lord Kelvin. Donc je rappelle cet effet photoélectrique. Donc l'effet, lui, il est connu depuis déjà plusieurs années. Les physiciens, ils ont observé que quand on éclaire un matériau conducteur, il y a un courant d'électrons, donc un petit courant électrique qui apparaît. Sauf qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que déjà, il y a un effet de seuil. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un rayonnement qui a une certaine fréquence pour que ça marche. Donc, fréquence ou longueur d'onde, on va parler en fréquence. Donc ça veut dire, on a déjà parlé hein, du spectre de la lumière, du spectre de la lumière visible. Donc le rouge a une énergie qui est plus faible que le bleu en physique hein, et en optique. Donc, ça veut dire que ça correspond à des rayonnements qui sont plus énergétiques. Et donc on observe un effet de seuil, c'est-à-dire et un effet qui dépend aussi du matériau sur lequel on envoie la lumière.
Ah oui.
Donc déjà, ils ne comprennent pas ça. Parce que dans la théorie de l'onde électromagnétique, on envoie de l'énergie, c'est de l'énergie. Et donc quelque part, en envoyant une onde suffisamment intense ou pendant suffisamment longtemps, on doit pouvoir arriver à décoller tous les électrons qu'on veut. Sauf que ça ne marche pas. Et ça, ils n'ont pas d'explication pour ça. Par contre, ils constatent que le nombre d'électrons, il va dépendre de l'intensité, de l'intensité lumineuse, une fois que cet effet de seuil est franchi. Et ce qu'il remarque aussi, c'est que l'énergie, on va dire pour faire court, la vitesse de ces électrons, parce qu'ils peuvent la détecter, elle ne dépend pas de l'intensité. Elle dépend que de la fréquence. Bon. En fait, tout ça, ça fait que ça ne marche pas, quoi. Qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'effet photoélectrique dans le modèle classique ondulatoire de la lumière. Et Einstein, en fait, il va reprendre cette intuition de Planck. E égale H nu, et il va dire, en fait, si je prends ça, là, d'un coup, tout marche, en fait. Parce qu'il dit, en fait, la lumière, quand elle échange de l'énergie avec la matière, elle ne le fait pas de façon continue, comme une onde, comme ça, qui enverrait, Mais c'est vraiment la lumière, c'est des photons. C'est des petits quantums, des petits quantas, du coup, des petites boules de lumière, des petits paquets de lumière qui ont une énergie précise. Chaque paquet a l'énergie H fois la fréquence. Voilà. Et du coup, ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une lumière qui a une fréquence pas suffisamment élevée, en fait, vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour arracher l'électron.
Ouais, ouais.
Et pourquoi ça dépend du matériau aussi ? C'est parce que en fait, ça va dépendre du solide et de sa cohésion, hein, ce qu'on appelle les forces de cohésion à l'intérieur des solides. Et ça, ça dépend de la structure de la matière, en fait. Mais vous avez des, on imagine bien que vous allez avoir des solides qui sont, on va dire, plus compacts, plus denses, ou en tout cas qui sont plus difficilement, enfin qui sont mieux liés en fait, où ça les particules sont mieux liées entre elles.
Ouais, ça me fait penser à, tu laisses un sac plastique dehors au soleil, et il se fait complètement cramer, il fond par le soleil, enfin il se délite.
Ouais. Sans... Mais ça c'est pas l'effet photoélectrique, parce que ça, en fait, pour le coup, lui, c'est la chaleur qui lui fait
c'est
ça.
C'est juste un effet thermique.
Ça, c'est un effet thermique, ça.
Ah ouais, c'est pas là. Okay.
Non. Là, on parle vraiment de courants, de petits courants électriques qui apparaissent à la surface de matériaux conducteurs qui sont soumis à un rayonnement. C'est okay. Ça. Donc là, vraiment, ben, forcément, lui, Einstein, il avait pas ça. Mais à partir de là, pour faire comprendre, c'est vraiment le panneau photoélectrique, quoi. C'est exactement ça. Alors, on a une lumière qui arrive, et cette lumière va être convertie en électricité, c'est-à-dire en courant d'électrons, puisque c'est ça l'électricité, des électrons qui circulent.
Si, donc, on peut le prendre à l'envers, peut-être avec un câble électrique, que plus un câble classique, hein, tu branches quelque chose, et plus tu lui envoies de l'énergie, plus il chauffe, et au bout d'un moment, il peut tellement chauffer qu'il va se mettre à rayonner, à briller, peut devenir rouge. Et là, c'est l'effet inverse. Si tu lui envoies de la lumière, et en échange, il y a de l'électricité.
Ouais.
Ça te va.
Ouais, on va pas rentrer dans les détails. Parce que, ouais. Mais oui, en gros, c'est ça. Donc, en fait, cet effet photoélectrique devient compréhensible à partir du moment où on introduit la quantification de la lumière. Alors, c'est ça, cette relation E égale H nu. Et donc, Einstein, il aura le prix Nobel en 1921. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il ne l'a pas obtenu pour sa relativité restreinte, oui, ni pour sa relativité générale, qui est quand même une théorie énorme. Enfin, la relativité générale, on a déjà parlé, hein, c'est la théorie en gros de la gravitation, donc de l'univers à grande échelle, et du fait que du concept d'espace-temps, en fait, où le temps devient une dimension au même titre que les trois coordonnées de l'espace, quoi. Donc on est quand même dans quelque chose là au niveau de la créativité et de l'esprit humain, ouais. Et dans son approche de la compréhension de l'univers et de sa complexité, dans un truc quand même ultra avancé.
Ouais, c'est hors norme presque. Ouais.
Et lui, en fait, il a eu prix Nobel non pas pour tout ça, mais pour l'effet photoélectrique.
Ah ouais, ok.
Et de la même façon, Planck, son collègue, parce qu'après ils ont collaboré, hein, Planck, il a fait ça, je dis derrière, il n'a pas forcément fait grand chose, mais il a quand même travaillé toute sa vie,
oui.
Il a émis des idées, il a publié des papiers, enfin voilà, il était là. Il n'a pas fait de propositions majeures qui ont changé les choses, autres que celle-là, mais c'est quelqu'un qui a énormément contribué au développement de la mécanique quantique. Et lui aussi, il a eu le prix Nobel en 1918, donc un peu avant. Et lui, pour la théorie des quantas, en fait. Donc, la théorie des quantas, c'est tout ce que je raconte, là, depuis quelques temps, sur les raies de la lumière, hein, dans la spectroscopie, le fait que... Donc, en fait, de tout ce qui est l'émission et l'absorption des photons, et puis le concept même de photons, en fait, par les atomes. Quoi. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est tout ça qui se joue, en fait. Et là, donc, on en arrive, du coup, en 1900, on va dire, à partir de 1915-1920, où là, en fait, la mécanique quantique va se développer. Et on aura aussi donc, la relativité générale qui va donner le cadre pour la gravitation. Et en fait, réellement, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu d'avancée théorique. Autre, en fait. Il n'y a pas d'autres théories qui sont apparues depuis au moins 100 ans pour changer réellement notre vision ou élargir le cadre, etc. On en est toujours là, en fait. Ça a été développé, ça a été évidemment raffiné.
Différentes branches qui sont parties dans différentes théories, mais mais rien de consensuel.
Rien de consensuel, et en fait, maintenant, tout le grand débat, c'est d'essayer d'unifier toutes les forces, donc les théories de grande unification, c'est-à-dire le grand fantasme, c'est de faire une seule équation qui permettra de décrire à la fois l'électromagnétisme, à la fois la mécanique quantique, à la fois la relativité générale. Bon, est-ce qu'on y arrivera un jour ou pas, ça, le temps le dira. Mais en tout cas, on n'est pas allé plus loin que ce cadre-là, là, que je viens d'exposer. Et dans la suite des émissions, j'essaierai quand même de développer un peu différents concepts de mécanique quantique, d'essayer de les expliquer, de les aborder de façon à peu près compréhensible. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui.
Ok. Merci.
Merci, ouais.
On va faire une petite pause musicale. Cette semaine, on va écouter un morceau du Chapelier Fou qui s'appelle Capitaine Fracasse. Thank you. Et bon retour dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. On va continuer cet épisode 21 avec la chronique spatiale de Pierrick.
Et ouais, et alors je vais vous parler d'un personnage emblématique de la conquête spatiale. C'est un Allemand qui s'appelle Werner von Braun, donc qui est assez connu hein, dans le spatial.
Dans le milieu, oui.
Pardon ?
Dans le milieu, ouais. Assez connu.
Donc il est né en 1912 et il est mort en 1977. Donc je vais commencer par raconter sa vie, des petites anecdotes que j'ai trouvées sur lui qui m'ont parlé, quoi. Donc à 12 ans, à l'époque, donc quand il avait 12 ans en 1920, dans les années 20, il y avait plein de constructeurs de voitures qui faisaient des espèces de voitures fusées. Les mecs, ils déliraient à mettre des espèces de gros feux d'artifice sur des voitures pour avancer super vite.
Des sortes de dragsters, en fait, ou...
On peut dire ça, les dragsters de l'époque, ouais. Et notamment Fritz von Opel, donc Opel, la marque de voiture, qui fabriquait des voitures fusées, et c'était assez populaire à l'époque, apparemment. Et donc lui, quand il avait 12 ans, Werner, il avait une petite voiture, un jouet, et il avait accroché des feux d'artifice dessus, et il s'amusait à les balancer comme ça, dans la rue. Ouais. Voilà, ça, c'est un petit prémisse du personnage, quoi. Donc après, voilà, il est d'une famille bourgeoise allemande, voire aristocratique. Je crois qu'il est baron, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est une grosse famille allemande. Donc il est très inspiré par Tsiolkovsky, donc ça, c'est les précurseurs d'un précurseur russe de la conquête spatiale, donc avant lui, mais qui a théorisé beaucoup de choses sur la conquête spatiale. Et donc Werner von Braun, il devient ingénieur mécanique, et ingénieur méca, voilà, un peu général, mais voilà, il s'oriente dans cette branche. Et donc là, il rencontre Hermann Oberth, donc c'est pareil, c'est un Allemand qui est précurseur aussi dans le spatial. Et là, von Braun, il rentre dans une association de navigation aérospatiale. En fait, avec Oberth et d'autres, hein, ils se retrouvent dans une espèce de terrain vague en banlieue de Berlin, et ils envoient des grosses, on va dire des gros feux d'artifice, des espèces de gros pétards. C'est vraiment le début des... Enfin, il y en a eu d'autres avant, hein, ou en même temps, mais voilà. En tout cas, en Allemagne, c'était eux qui faisaient ça. Ils s'amusaient à envoyer des fusées un peu artisanales, comme ça. Et donc, forcément, un peu de temps après, en 1929, l'armée allemande s'intéresse aux fusées. Forcément, ça devient des missiles. Et donc, il commence à avoir des sous pour faire des recherches sur les moyens de propulsion, notamment les propergols solides ou des ergols liquides. Voilà, ça, c'est les moyens de propulsion des fusées. Et donc, il lui propose en 1932 de faire une thèse sur les fusées à ergols liquides. Donc voilà, il accepte de faire une thèse là-dessus. Et donc, il crée un moteur fusée. Et au passage, je voulais parler de Pedro Paulet. Donc, c'est un Péruvien qui a fait des études en France. Et lui, par contre, on peut dire que c'est l'inventeur du premier moteur fusée à ergol liquide en 1897. Donc on est quand même un peu avant, et ça avait déjà été plus ou moins fait. Mais tout ça pour dire que c'est pas arrivé de nulle part, et qu'il y a toujours eu des gens avant qui ont inventé des choses pour créer ces moteurs de fusée. Donc von Braun, il fait ses recherches sur les moteurs à ergol liquide. Et donc... il invente les premiers, le moteur de fusée qu'on connaît actuellement, en fait. Et lui, ce qu'il met en place, et qui est toujours d'actualité dans tous les moteurs de fusée actuellement, c'est le refroidissement par circulation du carburant à l'intérieur des parois de la tuyère. C'est-à-dire qu'avant de se mélanger au comburant, le carburant il passe à l'intérieur des tuyères pour refroidir, et après il se mélange et il crame. Et donc là, ça fait la combustion et la poussée. Donc grâce à ce système, les moteurs sont trois fois plus puissants. Donc là, c'est vraiment là où l'armée commence à lui faire vraiment confiance, et il obtient des gros financements.
Ah.
Voilà.
Pour faire des grosses fusées bombes.
Voilà, et donc l'armée, forcément, les missiles, envoyer des missiles depuis son pays sur des autres, c'est toujours plus pratique que d'aller sur place. Donc voilà, il obtient des gros financements de l'armée. Il fabrique deux fusées qui arrivent à monter à 2200 mètres d'altitude. Il se fait même une nouvelle base en mer Baltique, une super base avec plein de choses pour pouvoir étudier et lancer des fusées. Et donc évidemment à cette époque, le parti nazi prend beaucoup beaucoup de place. Et en 1937, eh ben, il adhère au parti nazi. Voilà, je le mentionne, on en parlera après. Et là, il développe toute une série de fusées qui s'appelle Agrégat. En fait, c'est comme en français, un agrégat, c'est une espèce d'assemblage. Et donc, il développe les fusées A1 à A12. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais prendre celles qui m'ont parlé. Donc, par exemple, la A4, qui est la future V2. Donc, V2, c'est... Alors, je ne me rappelle plus en allemand, mais en français, c'est arme de répression.
Ah oui.
Je crois que c'est ça.
Je ne sais pas.
Ah ouais, je crois que ça veut dire ça. Donc ça, on est vraiment sur les premiers missiles balistiques. Et on est aussi sur cette fusée A4. On va l'appeler A4 parce que V2, c'est moche quand même. L'A4, c'est le premier véhicule à atteindre l'espace, à atteindre l'extra-atmosphère. Donc ça y est, c'est la première fois qu'on envoie un objet dans l'espace. Donc il est aidé par un ami qui s'appelle Walter Thiel, qui a grandement aussi amélioré les performances de ces missiles. Par exemple, il développe des apex. Les apex, c'est des petites ailes qu'il y a sur les bords des fusées pour améliorer la stabilité. Des systèmes de guidage aussi pour guider les fusées, tout simplement savoir où elles vont, enfin les guider. Aussi faire des grappes de moteurs, assembler plusieurs moteurs ensemble. Voilà. Et donc ils arrivent à l'A10. Donc là, on est vraiment sur un espèce de missile transatlantique. Alors, c'était un projet des Allemands, j'en parle vite fait. Il voulait envoyer des missiles sur les États-Unis grâce à ces grosses fusées avec un pilote. Donc,
Kamikaze.
Ouais, là, c'était truc.
Ah ouais, j'ai entendu parler de ça.
Ouais.
Lancé depuis l'Allemagne.
Ouais. Okay. Ouais. Alors, soit une fusée qui démarre classiquement comme ça, soit propulsée sur un espèce de chemin de fer qui fait 10 km de long et lancée à fond. Avec un pilote, avec des sous-marins dans l'Atlantique pour faire guidage.
Ouais, pour le faire relais.
Ouais. Et après, le pilote, soit il se sacrifiait pour la cause, on va dire, soit il se parachutait quelque part. Voilà. Bon. Et du coup, on arrive à l'A12. L'A12, et là, c'est vraiment une fusée orbitale, comme on l'entend maintenant, avec 4 étages. Donc un étage d'A9, un étage d'A10, un étage d'A11, un étage d'A12. Voilà, qui était en théorie, ça n'a jamais été construite, mais elle était en théorie capable de transporter 10 tonnes en orbite basse. Elle faisait 33 mètres de haut, elle avait 50 moteurs. Donc voilà, on est vraiment sur les débuts des premières fusées comme on les connaît maintenant. Et elle n'a jamais été faite parce que, évidemment, la guerre a fait que le programme militaire allemand s'est arrêté, quoi.
Enfin, le fait qu'ils aient perdu la guerre, plutôt.
Le fait que, oui.
Parce que sinon...
Tout à fait. Et donc, on arrive à la fin de la guerre, en 1944, et ils utilisent beaucoup les V2, les Allemands. Et Werner von Braun, il est adulé par Hitler, il a beaucoup de décorations, de promotions. Et Hitler, il donne la priorité aux V2, et notamment, elles sont fabriquées dans le camp de Dora. Donc le camp de Dora, je ne sais plus où c'est exactement, mais en tout cas, c'était comme un camp de concentration. C'était un endroit où ils fabriquaient les V2, où, dans des conditions de travail inhumaines, où il y avait énormément de morts. Je crois qu'il y a eu plus de morts dans ce camp que des morts dues au lancement de missiles V2, de bombes, quoi. Enfin, voilà, c'est grand n'importe quoi. Donc là, il était là, von Braun, il voyait ce qui se passait. Donc, voilà. Et du coup, von Braun, il commence à changer de veste un peu, changer, se dire « Oh là là, l'Allemagne va perdre ». Et donc, il commence un peu à évoquer la défaite. Il pense que le V2 n'est pas l'arme miracle, que grâce au V2, ils vont gagner la guerre. Et il pense, lui, que ces fusées peuvent servir au trafic postal, notamment. Donc là, il commence à être embêté par la Gestapo. Et il l'arrête pour défaitisme et pour avoir consacré des ressources vitales pour un projet pacifique et non pour la guerre.
Ah, bravo!
Ouais! Donc il n'est pas trop embêté parce que, quand même, c'est une figure.
Oui.
Voilà. Et là, du coup, il y a une sorte d'exfiltration de lui et de toute son équipe, donc ils sont une centaine quand même, aux USA. Ça s'appelle l'opération Paperclip. Donc à la fin de la guerre, quand l'Allemagne est vraiment exsangue et en cendres, les Américains arrivent à exfiltrer tous ces chercheurs et savants aux États-Unis. Donc en 1955, il obtient la nationalité des USA. Et il continue voilà, de mettre au point les premiers missiles guidés américains. Il continue dans sa lancée. Mais Eisenhower, le président américain de l'époque, a un peu du mal à ce qu'il y ait un Allemand qui soit là, toute une équipe allemande qui soit là et qui lance le premier satellite des États-Unis. Voilà, il a un peu du mal. Alors Eisenhower, il change et il dit non, ce ne sera pas Von Braun qui fera ça, ce sera une autre équipe. Parce que je rappelle, à l'époque, il y a toute la concurrence avec l'URSS. Ah oui. Et donc, il dit, voilà, faut aller vite, faut aller plus vite que l'URSS. Et
mais donc, il faut pas que ce soit un Allemand.
Voilà, ouais. C'était un peu bizarre. Donc, il met Von Braun de côté et il confie cette tâche d'envoyer un premier satellite en orbite à la marine, je crois. Et en fait, ça marche pas, c'est un échec total. Et on sait très bien que...
C'est Sputnik. Sputnik est arrivé en premier.
Voilà, ouais. C'est l'URSS qui a envoyé en premier Sputnik. Donc, du coup, Von Braun, il revient au devant de la scène. Et en 58, il y a la création de la NASA. Et du coup, Von Braun est nommé directeur d'un centre spatial, du Centre Spatial Marshall. Donc voilà, il a un gros poste. Et donc là, il fait partie prenante de toutes les du programme Mercury, de tout le début de la conquête spatiale américaine avec le premier américain dans l'espace, etc. Jusqu'au programme Apollo en 61, lancé par Kennedy. Donc le programme Apollo, c'est le programme de lancement d'aller sur la Lune, quoi, d'un être humain à aller marcher sur la Lune. Et là, Von Braun prend en charge la conception de la Saturn V. La Saturn V, c'est vraiment la fusée emblématique du programme Apollo. C'est la plus grosse fusée jamais créée, même encore maintenant, on n'a pas fait plus gros que ça. Elle fait 110 mètres de haut, elle fait 10 mètres de diamètre. Donc c'est vraiment...
Et c'est colossal.
C'est énorme. Il y a une photo de Von Braun qui est devant les réacteurs de fusée d'une Saturn V et c'est démesuré, quoi, ce truc est énorme, surtout qu'à l'époque le programme Apollo il a pas un budget illimité mais quasi, donc ils se sont vraiment lâchés, quoi. Donc la fusée Saturn V, elle peut envoyer 140 tonnes en orbite basse, ce qui est énorme, et 47 tonnes sur la Lune. Donc c'est la plus grosse fusée jamais construite à l'heure actuelle. Et donc voilà, c'est un peu son bébé quand même. Et en 1970, donc c'est un an après le premier pas de l'homme sur la Lune, Von Braun devient administrateur de la NASA, le big boss de la NASA. Vraiment le sommet le plus haut avant le politique, quoi. Mais ça ne dure pas, il est en désaccord parce que lui, il veut continuer, il veut aller sur Mars. Alors que la priorité de la NASA est donnée à la navette spatiale, la navette réutilisable spatiale. Ouais. Et il y a une grosse baisse de budget aussi. Donc voilà, là sa carrière s'arrête un peu, il part un peu dans le privé et puis en 77 il meurt. Donc on va parler un peu de son parcours à ce bonhomme là. Est-ce que c'était un vrai nazi? Est-ce qu'il y a toujours des petites... on se demande toujours un peu s'il est c'est un méchant ou pas. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé à jouer avec une petite voiture et à mettre des feux d'artifice dessus quand il était petit. Et il a fini
à envoyer quelqu'un sur la Lune.
À envoyer une Saturn V et quelqu'un sur la Lune. C'est quand même une sacrée réussite et c'est quand même quelque chose.
Mais c'est aussi une illustration, je trouve, de la façon dont l'homme il utilise la science, quoi. Parce que, bon, que ce soit un vrai nazi ou pas, moi j'en sais rien, je ne le connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une forme de connivence ou une capacité à se voiler la face pour ses intérêts personnels. Mais c'est sûr que si on reprend par exemple, Einstein était juif, il était allemand, enfin autrichien, mais il vivait là et il a fui, quoi. Il est parti, donc tous les scientifiques n'étaient pas obligés de collaborer avec l'Allemagne nazie. Il y en a aussi qui ont refusé, qui ont fini dans les camps et dont on n'a plus jamais entendu parler. Il y a ceux aussi qui ont fait un peu profil bas, qui ne l'ont pas trop ramené, mais sans collaborer avec le régime, mais juste qui ont essayé de traverser l'époque sans faire de vagues. Il y en a aussi, donc il y a eu un peu tous les chez les scientifiques, comme dans tous les domaines d'ailleurs.
Oui, c'est ça, il y a chaque personnalité un peu.
Un peu tous les parcours, mais lui c'est clair, à partir du moment où on est, enfin moi je pense on est une sorte de bras droit d'Hitler, on bosse dans une usine où on voit que les conditions sont misérables, et que, enfin pire que misérables, puisque tu disais qu'il y avait plus de morts dans l'usine que dû au bombardement des fusées, le mec il peut pas ne pas le voir, donc soit il a vraiment une capacité de se voiler la face phénoménale, mais en fait moi je pense que c'est quelqu'un qui s'en fout, et ce qui compte pour lui c'est de faire son truc. Il voulait faire ses petites fusées, il voulait avoir les moyens, et si ça devait coûter quelques vies, au fond, il ne devait pas en avoir grand-chose à faire. Enfin, moi, je le vois plutôt comme
oui,
ça.
Je pense, et après, je suis plutôt d'accord avec toi.
Mais... Ouais, et donc après, le fait que les Américains le récupèrent, mais c'est un classique. Ils n'ont pas récupéré que lui, en fait, puisque les Allemands, c'était des super scientifiques à l'époque, dans plein de domaines, en chimie aussi. Mmh. Ils en ont récupéré plein. Après, il y a aussi plein de nazis qui se retrouvaient en Amérique du Sud et qui ont formé un peu les futures juntes militaires, etc. Les cadres de l'armée à la torture.
La France aussi
a fait.
On a récupéré un paquet. Hein.
Grande expertise de la France.
Airbus,
Eurocopter, sur la torture après la guerre d'Algérie. Ouais. Enfin bon, là, on déborde un peu de sujet. mais moi, en fait, voilà, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... Quelque part, la façon dont l'homme il utilise la science, il n'y a aucune conscience, en fait. C'est... Ben voilà, il dit, lui, avec mes fusées, on pourrait faire du transport postal. Mais ouais, super. Pourquoi pas? Mais non, on va plutôt faire des bombes, quoi. C'est, et ce qui compte, c'est... Enfin, il y a un côté, je trouve, aller de l'avant dans la connaissance, coûte que coûte, en fait.
Ouais,
quoi
plus,
qu'il en coûte,
plus
en fait.
Important que tout.
C'est ça.
C'est une sorte de truc d'idéal sacré de la connaissance, et peu importe, en fait, les dégâts que ça peut causer. Sauf que c'est pareil avec le nucléaire, en fait, aussi.
Bien sûr.
On sait très bien les problèmes phénoménaux que ça génère, et on le fait quand même. La voiture, c'est un exemple énorme.
Ouais. Oui.
Bon, voilà, donc moi je trouve que ça illustre pas mal ça. Le fait après qu'il y ait un nazi qui soit récupéré par les États-Unis, ça par contre, ça fait belle lurette que j'ai perdu mes illusions sur le sujet.
Ouais, c'est vrai que...
J'aime bien l'ironie de dire, ah non, on ne veut pas que ce soit un nazi qui mette en orbite le premier satellite.
Peut-être
on va
plus
plutôt prendre
un
Américain, un Allemand, voilà. Et du coup, il se foire là-dessus.
Reprends-le.
Ouais. Bon, allez, tu peux revenir.
Prends-le parce qu'il est plus fort que nous.
Ouais.
Mais je pense quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, il va y avoir quand même une telle excitation. Enfin, avant lui, il n'y avait rien qui était allé aussi haut.
Ouais.
Il a tout inventé. Enfin, il n'était pas seul, évidemment, avec son équipe et tout, mais... d'inventer les moteurs, d'inventer les systèmes de guidage, tout faire presque en partant de rien. Et tu parlais de la 4, je crois, le premier à arriver dans l'espace.
Ouais, ça m'a V2. C'est,
ça devait être quand même jubilatoire. Quoi.
Bah ouais. C'est énorme.
Puis aussi une forme de... Du coup, clairement, c'est quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle pour arriver à faire ça, une intelligence technique exceptionnelle. Et on voit bien que par contre, il n'y a aucune sagesse. Et c'est, là aussi, c'est toujours très étonnant, moi, je trouve, d'avoir des cerveaux qui sont extrêmement intelligents, mais qui, en fait, humainement, comprennent rien, en fait.
C'est vrai, ouais. Je crois que vers la fin de sa carrière, il a dit « Donnez-moi un budget illimité, et en 10 ans, j'envoie des mecs sur Mars. » Ouais, ça n'arrêterait jamais, quoi. Mmh. C'est vraiment le progrès, même actuel, le mythe du progrès actuel, on est toujours là-dedans, quoi. Mais ouais.
Ouais, un personnage fascinant en tout cas, je pense.
Enfin, ouais, quand même, ouais.
Ouais, quand même beaucoup à lire sur lui, à se faire son idée. Et, je trouve ça. Je l'admire pas, mais je trouve ça quand même fort quoi, comme parcours.
Petite pointe d'admiration quand même.
Je sais pas. Moi, mais d'ambiguïté, quoi.
Oui, voilà, en tout cas, ça, c'est sûr.
En tout cas, on lui doit une grande partie du spatial moderne. Quoi.
Oui.
Ah ouais.
Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire.
Oui, oui. aujourd'hui on continue à utiliser ces inventions. C'est vrai que moi et vous aussi, je suis un peu plus jeune, mais je suis né, les fusées existaient déjà, alors que lui non. C'est vraiment avec lui que c'est arrivé, je trouve ça fort.
Après, il y a aussi cette idée classique hein, que malheureusement, à chaque fois qu'il y a une guerre, enfin une guerre un peu d'envergure, il y a des développements techniques associés qui ensuite d'ailleurs ont des répercussions dans le civil, mais c'est clair que la Seconde Guerre mondiale, il y a ça, il y a le spatial hein, qui est venu effectivement au départ de la construction de missiles balistiques en fait, mais il y a aussi tout ce qui a été radiocommunication.
Après, peut-être que s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, ils auraient quand même développé ça sans...
C'est vrai qu'il y travaillait déjà avant la guerre, mais c'est la guerre qui lui a permis d'avoir ce budget peut-être aussi.
Ouais.
Mais la guerre, c'est ça, ça crée un budget et ça crée aussi une espèce d'urgence.
Ouais.
Il faut que ça avance, ça. On veut gagner, de la même façon que la course entre l'URSS, la course spatiale entre l'URSS et les États-Unis, c'est aussi un immense gâchis parce que quelque part, au lieu de travailler ensemble, on travaille l'un contre l'autre. Enfin, il y a forcément aussi des endroits où il y a un énorme gaspillage. Mais ça a aussi stimulé les esprits. Enfin, c'est toujours un peu cette truc toujours ambigu de la compétition
et de la concurrence
et de la concurrence qui est aussi un grand argument du capitalisme aussi pour dire il faut de la concurrence parce que c'est stimulant, mais on voit aussi le revers de la médaille. Donc c'est des choses qui vont l'un avec l'autre en fait, on peut pas séparer quoi.
Très bien, oui, c'est rien à rajouter.
Bon, on va arrêter là les considérations philosophico-métaphysiques. Et on va vous laisser pour cette semaine en vous souhaitant de belles observations du ciel. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Your mysterious mountains I wish to see closer.